Côté santé avec Sounou Assurance en Guinée. Sounou Assurance Vie Guinée qui vous protège ainsi que vos proches et Sounou Assurance IARD Guinée qui préserve vos biens. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Peur de la foule, de l'ascenseur, de l'avion, des araignées, des chats ou du tonnerre. Ces phobies peuvent nous sembler assez familières dans la mesure où certains de nos proches sont concernés ou que dans un livre, un film, un personnage souffre d'arachnophobie ou d'agoraphobie. D'autres phobies sont beaucoup moins courantes et peuvent toucher des objets inattendus, les horloges, les bananes, les fleurs. Elles peuvent faire sourire, étonner, provoquer l'incrédulité chez celles et ceux qui ne sont pas concernés. Par contre, ces phobies peuvent constituer un frein, voire carrément un obstacle pour les personnes qui en souffrent. Souffle court, palpitations, transpiration, certaines réactions spectaculaires, cris, panique, fuite. Dans tous les cas, cohabiter avec une phobie suscite des réactions, malaise, inconfort, série de symptômes qui peuvent freiner certaines initiatives, voire carrément empêcher d'agir pour éviter un accès de panique. Alors aujourd'hui, on va parler de la prise en charge de ces phobies, les comprendre, les traiter. Existe-t-il des méthodes, des approches pour s'en débarrasser? Comment sortir de l'isolement auquel peuvent conduire certaines phobies? Avec, comme chaque jour, des exemples concrets. Décrire ces phobies, comprendre comment elles peuvent nous freiner dans notre quotidien, envisager des pistes pour soulager ces angoisses. Et bien sûr, nous vous donnons la parole dans Priorité Santé. Et en studio, avec nous, pour vous répondre, Anne-Victoire Rousselet, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute spécialisée en thérapie cognitive au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et en fin d'émission, Alimentation et Santé, nous retrouverons la chronique de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Alors Anne-Victoire Rousselet, question courte et efficace. Ces phobies, est-ce que c'est un motif fréquent de consultation ?
Oui, tout à fait, Caroline. C'est même le motif le plus fréquent, c'est-à-dire le trouble anxieux et le trouble anxieux spécifique, comme les phobies. Tout à fait.
Est-ce qu'il y a encore des phobies qui vous étonnent ? Sans jugement, mais quand même des gens qui arrivent avec des objets, des sujets qui les angoissent et auxquels vous ne vous attendiez pas.
Ça devient rare, ça arrive encore, mais ça devient rare. Il y a quand même, dans un contexte social et culturel identique, hein, puisque là, on va parler d'un contexte citadin à Paris, c'est quand même fréquemment les mêmes objets de phobie.
Même si on va voir tout à l'heure avec nos auditeurs, les objets seront assez différents. Est-ce qu'il arrive que ces phobies, vous, psychothérapeute, vous soyez amené à les identifier dans le cadre d'une prise en charge plus générale ? La personne arrive, elle est mal à l'aise, elle fait part de certaines angoisses, des palpitations, de la transpiration. Et il faut un certain temps finalement pour mettre le doigt sur l'objet de la panique.
Alors rarement, parce que les phobies spécifiques, en général, les gens ont bien identifié. En fait, ce travail en amont, ils ont associé la peur à l'objet phobogène. En revanche, il peut arriver que dans un contexte un peu plus général, peut-être d'une dépression ou d'un autre trouble anxieux, on puisse trouver une petite phobie qui soit pas gênante pour le quotidien. Mais quand elle est gênante pour le quotidien, les gens l'ont bien identifié en général.
Alors, comme beaucoup de mots qui touchent au psychique et au mental, certaines maladies ou certains troubles sont un peu utilisés à tort à travers, comment justement on distingue la vraie phobie d'une simple peur ? On va au cinéma voir un film d'horreur, on sort, on a peur, on est dans le noir, on a peur, c'est tout à fait naturel. Par contre, quand il y a la phobie, c'est quoi ?
La phobie est finalement un trouble anxieux très spécifique, donc ça se manifeste comme un trouble anxieux, avec des pensées d'anticipation négative, des comportements d'évitement aussi. Donc la personne phobique a une peur panique et irraisonnée d'un objet. La plupart des phobiques savent très bien que l'objet de leur phobie ne peut pas leur nuire ou leur faire de mal, mais c'est une peur qu'on ne peut pas contrôler et qui conduit à des comportements d'évitement, des comportements qui peuvent paraître complètement inadaptés dans le contexte. À Paris, on a la peur des pigeons, par exemple, hein, la phobie des pigeons, qui est vraiment très spécifique et qui n'est pas forcément associée à d'autres volatiles.
Alors qu'on sait que les pigeons ne vont pas du tout nous attaquer, on n'est pas dans le film d'Hitchcock. Anne-Victoire Rousselet, il y a des peurs, bien sûr, et puis il y a aussi des manifestations, des réactions physiques. Là, on est quasiment sur le symptôme, ça peut modifier les comportements. On vous rapporte quoi, justement, comme signe de ces phobies ?
C'est d'ailleurs ce qui précipite en général les consultations, c'est-à-dire quand les gens sont gênés, freinés dans leur évolution et dans leurs comportements sociaux. Donc ils constatent que voilà, ils peuvent pas aller chez un ami parce qu'il a des oiseaux, qu'ils sont empêchés. Par exemple, j'avais une jeune fille qui était venue, qui a une phobie des poules, allant jusqu'à la poule en chocolat de Pâques. Hein.
Donc
ça peut être gênant dans certains contextes et ça s'était généralisé même à tous les volatiles. Et donc ça l'empêchait, ça l'entravait vraiment dans son comportement. Comportement au quotidien. Donc c'est là que les gens viennent consulter. Si c'est une phobie des poules et qu'on vit plus à la campagne, c'est pas forcément gênant.
Est-ce que vous avez eu en consultation aussi certains patients qui cumulent plusieurs phobies ?
Oui, bien sûr. En fait, un trouble anxieux qui n'est pas pris en charge, et c'est ça l'important aussi à dire peut-être aujourd'hui, un trouble anxieux qui n'est pas pris en charge va coloniser l'espace, d'accord ? Donc, cette peur irraisonnée, on a appris que ça fonctionnait, parce que éviter finalement l'objet phobogène, on ressent tout de suite un soulagement, un apaisement. Donc, on va apprendre que ce comportement, finalement, a des conséquences positives. Et donc, on risque aussi de trouver ce trouble anxieux qui va prendre d'autres espaces, comme les conversations en public ou d'autres situations, et engendrer évidemment une phobie supplémentaire.
Alors, l'histoire personnelle, le parcours des patients, Anne-Victoire Rousselet, est-ce que ces phobies s'expliquent, cette dimension d'explication, est-ce qu'elle est pertinente pour la prise en charge ou pas forcément ?
Donner du sens à la phobie, oui, elle est toujours, c'est toujours pertinent. Pourquoi ? Parce que la phobie ne vient pas comme ça par hasard. Elle arrive dans un contexte où l'être humain a une activation physique très importante à laquelle il va chercher à donner du sens, puisque l'être humain ne supporte pas de ne pas avoir de sens à ce qui lui arrive. Donc, il va chercher dans l'environnement quelque chose qui a pu déclencher cette situation. Et donc, ça va être, en effet, peut-être les transports, peut-être un oiseau ou un autre objet.
Peur et phobie au pluriel, on va l'entendre tout de suite, Anne-Victoire Rousselet. On donne tout de suite la parole aux auditeurs et aux auditrices de l'émission.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Alors, on va prendre une auditrice en ligne. Cette auditrice, c'est Madeleine de Yaoundé. Racontez-nous, Madeleine, Anne-Victoire Rousselet est à votre écoute.
Merci, bonjour à tous. Alors, peut-être l'origine d'abord, aussi loin que remontent mes souvenirs, dans mon enfance, j'ai toujours eu une peur atroce des éclairs et du tonnerre. Bon, j'ai pu identifier un élément qui aurait sans doute nourri cette peur. Alors, comment ça s'est manifesté ? Dès que j'apercevais les éclairs dans le ciel, je sursautais, j'entrais en panique totale, je courais me réfugier parfois sous une table, et quand c'était possible, j'allais même me mettre au lit pour me cacher sous les draps. Il m'arrivait également de m'agripper fortement à la personne qui était à côté de moi. Mais ce que je voudrais quand même relever, c'est que cette phobie, elle n'était pas connue de tout mon entourage. Mmh. Alors, quelles étaient les conséquences ? Premièrement, ça entamait ma confiance en moi. Je me trouvais vraiment ridicule d'être ainsi tétanisée par un phénomène qui apparemment était anodin pour les autres. Mmh. Alors, une autre conséquence, c'est qu'une fois, après un tonnerre, je m'étais tellement recroquevillée sur moi-même que j'ai eu très mal dans le cou. Et puis je me suis dit que vraiment, ces réactions disproportionnées là, elles pouvaient me faire plus de mal que l'éclair en lui-même.
Et ça constitue une sorte de déclic, Madeleine, justement, cette douleur que vous êtes auto-provoquée, on va dire.
Voilà, exactement. Alors, il y a eu un déclic et la décision de lutter contre cette peur a principalement été déclenchée par la naissance de mon premier enfant. Mmh. C'est-à-dire, je redoutais qu'en me voyant, ma fille acquiert elle également cette anxiété-là. Et c'est donc là, à partir de ce moment, que j'ai décidé d'aller au combat contre les éclairs. Exactement comme on peut aller au combat.
J'aime beaucoup votre expression. Hein. C'est vraiment bien choisi.
Voilà. Alors donc, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que quand il y avait un éclair, je lui faisais face. Je ne fermais plus les yeux, je faisais des efforts pour rester calme et pour ne plus manifester une agitation extérieure. La deuxième chose que j'ai utilisée, c'est de me répéter sans cesse certaines paroles. Notamment, je me disais que depuis toutes ces années où je faisais ces faits, aucun éclair ne m'avait jamais rien fait. Mmh. Et enfin, dans cette lutte, je dois dire que ma foi a été un élément déterminant. Mmh. En ce sens qu'en affirmant que Dieu est mon refuge, mon abri le plus sûr, pour être cohérente avec moi-même, il fallait que j'abandonne cette peur démesurée. Mmh. J'en ai donc fait une intention de prière quotidienne et au fil du temps, je n'ai progressivement plus accordé d'importance aux éclairs jusqu'à ce qu'un jour, après une pluie, alors qu'il y avait eu des éclairs et du tonnerre, j'ai constaté que j'étais restée vraiment totalement paisible. Et voilà, depuis, je n'ai plus peur des éclairs. Et...
Là, c'est une belle histoire, Madeleine. Franchement, c'est une belle histoire. Anne-Victoire Rousselet, on entend véritablement Madeleine, hein, qui avait cette peur qui remontait à l'enfance, était partagée avec sa maman et qu'elle ne souhaitait pas transmettre à son tour. Elle a justement fabriqué des murs autour d'elle, monté une muraille pour se débarrasser de cette peur enfantine.
Oui, alors Madeleine dit beaucoup de choses en fait dans son témoignage très précieux, hein, parce que en effet vous avez eu la bonne démarche. La première des choses, c'est le déclic à la parentalité, hein, quand vous êtes devenue maman. En effet, on se dit qu'on n'a pas envie de transmettre les choses qui nous gênent nous, et donc ça c'est le premier déclic. C'est oui, j'ai une peur, ça m'a toujours gênée moi, mais j'ai pas envie que ça gêne quelqu'un que j'aime et j'ai pas envie de lui transmettre. Donc vous avez raison, les peurs peuvent être transmises comme ça, hein. Vous l'avez observé chez votre maman et vous l'avez peut-être reproduite vous-même en vous disant bah, c'est un comportement qui est normal. Votre chemin est tout à fait fiable dans la mesure où ce que vous avez fait, c'est que vous êtes exposé à ce qui vous faisait peur. Et c'est en effet comme ça que ça fonctionne. Il faut s'exposer à ce qui nous fait peur et se rendre compte qu'en fait, ce que vous avez fait, le chemin aussi intellectuel, hein, il ne m'est jamais rien arrivé finalement d'être exposé aux éclairs. Donc, est-ce que ma peur est raisonnable? Non, elle ne l'est pas. Donc, je peux faire face. Donc, vraiment, c'est exactement ce qu'on souhaite, hein, c'est pouvoir s'exposer et puis progressivement se raisonner.
Et je pense que les autres auditeurs et auditrices qui nous écoutent auront été très attentifs à tout ce que vous nous avez raconté. On vous remercie infiniment, Madeleine. Excellente journée pour vous au Cameroun. On va rejoindre tout de suite la Côte d'Ivoire avec en ligne Karine. Bonjour Karine.
Bonjour équipe.
Karine d'Abidjan, expliquez-nous vous, quelle est votre phobie?
Oui, la phobie que moi je développe, c'est la phobie de la souris, si je m'exprime bien. Je peux m'expliquer.
Oui, allez-y. Expliquez-nous par exemple, quand vous voyez une souris, qu'est-ce que ça entraîne chez vous comme réaction, comme comportement?
D'accord. Déjà, quand je vois une souris, déjà j'ai une réaction cutanée. J'ai poils tout de suite de la peau qui s'irrite. Et sincèrement, j'ai une vraie peur. Je ne peux l'expliquer. J'ai une vraie peur de la vie de la souris. Et du coup, si la souris est passée par un chemin, je suis sûre que je ne repasserai pas par ce chemin-là. C'est clair. Le simple fait que les poils d'une souris puissent m'effleurer, là, je ne peux même pas le supporter.
Est-ce que ça va même plus loin? C'est-à-dire que même quand il n'y a pas la présence physique de la souris, simplement son image vous terrorise aussi?
Oui, bien sûr. L'image d'une souris vue à la télé dans un film, surtout dans des égouts. La vue d'une souris qui sort d'un égout. Pour moi, la souris, en fait, c'est sale.
Les souris, les rats. Est-ce que vous avez aussi des sentiments par rapport à ce que les autres pensent de vous? Est-ce que vous avez peur aussi du jugement des autres?
J'ai pas peur du jugement des autres, puisque je sais même déjà quand on se moque de moi.
On se moque
parce
de vous, d'accord.
Parce qu'on se dit qu'à... Oui, on se moque de moi. Parce que les autres n'ont pas peur des souris.
Et ça dure depuis que vous êtes toute petite?
Oui, toute petite. Toute petite. Je ne peux même pas dire à quel âge ça a commencé, même depuis toute petite.
Alors Karine, quelles sont les questions que vous souhaitez poser à notre invitée Anne-Victoire Rousselet, qui vous écoute attentivement?
Moi, ma soeur aussi, j'ai une soeur qui a la même phobie que moi. Mais nos deux parents n'ont pas cette phobie-là. Donc du coup, je me demande si c'est génétique. Ça, je ne sais pas. Et ma soeur a une autre phobie, elle est claustrophobe. Suite à un événement qui s'est passé, elle était enfermée, quand elle était un peu plus jeune, dans l'ascenseur avec ma mère. Donc du coup, depuis lors, elle est claustrophobe. Et ma fille, mon bébé, elle a à peine un an, quelques mois, développe aussi cela. Donc je ne sais pas, est-ce parce qu'elle est petite, on se dit que tous les enfants ont peur du noir et tout, ou est-ce aussi le fait que sa tante développe cette phobie de la claustrophobie, est-ce que c'est pour autant qu'elle est en train de le faire? Elle a horreur quand l'enferme. Elle a horreur de rester seule dans le noir.
Alors cette question, donc, c'est est-ce qu'il y a des phobies familiales? C'est un petit peu ça votre question.
Voilà, est-ce que ça existe? Sinon, nos parents, nos géniteurs, il n'y a pas de problème. Bien au contraire, Quand il y a une souris qui passe, là, ils sont en train de à gesticuler, à fuir et tout. Ils sont les deux à nous regarder comme ça, mais elles n'ont pas encore fait deux, là.
Alors, Anne-Victoire Rousselet, qu'est-ce que vous en pensez? Phobie familiale?
Alors, c'est une très bonne question.
On est peut-être dans le familial, pas forcément dans la génétique.
Alors, il y a un peu de tout, en fait. D'accord. Dans le trouble anxieux, il y a un peu de génétique, hein. Il y a un peu d'observation, c'est-à-dire lié à l'éducation, hein. C'est vrai que si j'ai une maman qui me dit toujours fais attention, fais pas ci, fais pas ça, je risque d'être un petit peu plus tendue que mes petits compagnons qu'on laisse aller et faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est vrai qu'il y a à la fois un terrain biologique, physiologique, c'est-à-dire on s'active plus facilement quand on a des parents anxieux qui ont une tendance à l'anxiété, on s'active plus facilement. Puis après, il y a l'aspect expérience que vous décrivez très bien avec votre sœur qui a eu une expérience traumatique dans l'ascenseur. Et il y a aussi ce qu'on a observé et l'éducation, d'accord? Donc, il peut y avoir une situation lié à un petit animal, un petit rongeur que vous avez côtoyé plus jeune, qui vous a fait très peur, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous avez observé ou dans un dessin animé même, hein, dans un film, sauf qu'à ce moment-là, vous étiez très réceptive et vous avez une activation très forte que vous avez cherché à comprendre et donc vous l'avez attribué à ce petit rongeur. Alors après, la question biologique, oui, il y a une question biologique qui est un peu une hérédité de l'activation, mais l'objet, non. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des parents anxieux qui soient phobiques des rats ou des rongeurs. Moi, j'en ai dans ma famille, je le suis absolument pas. Pour autant, j'aurais pu développer un autre trouble anxieux, tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est aussi, je pense, au travers de votre question, j'entends comment ne pas transmettre la peur à mon enfant. Et alors, il y a déjà pouvoir vous permettre de vous prendre en charge à ce sujet. Mais sur votre enfant, c'est surtout être rassurante, toujours rassurée. Elle a peut-être ce terrain biologique comme vous. Ça ne signifie pas qu'elle aura une phobie plus tard. Si on est rassurant et qu'on a un discours en disant, mais voilà, le noir, c'est normal, tu sais, on va peut-être te mettre une petite veilleuse, puis quand tu seras plus grand, on l'enlèvera, etc. Mais pouvoir projeter l'enfant dans un cheminement et dans un parcours qui va le rassurer.
Dans l'explication. On vous remercie infiniment, Karine. Et d'ailleurs, on a eu des témoignages, certaines phobies qui peuvent paraître à première vue étranges. Et puis, quand on en parle autour de nous, on se rend compte que pas vraiment, hein. Par exemple, la phobie que nous confie sur Facebook Abdoulaye, lui, il a peur des petits trous regroupés, port de la peau, les os, hein, quand il y a une cassure sur un os, les alvéoles des abeilles dans les ruches. Anne-Victoire Rousselet, pourquoi des phobies communes? Pourtant, quand on en prend connaissance à première vue, ça semble complètement singulier, complètement incroyable.
Parce que c'est très fort, en fait, je pense, en termes d'intensité. Hein, on a du mal à se représenter ce que notre propre comportement. Et quand on le voit peut-être chez l'autre, ça nous paraît plus violent, plus brutal. Et on prend un peu plus conscience, parfois, de l'absurdité de la situation en l'observant. Et c'est important, cette question du miroir de l'autre, qu'on a discuté avec nos deux auditrices liées à la parentalité, à la maternité. Il y a quand même quelque chose où c'est un miroir pour nous. De ce qu'on transmet de notre comportement et de voir comment l'autre nous regarde quand on se comporte.
Et on va partir maintenant pour la République démocratique du Congo. On va retrouver Alpha à Lubumbashi. Alpha, bonjour.
Bonjour à l'équipe des priorités santé et à tous les auditeurs.
Alors racontez-nous, on vous écoute, Alpha.
Oui, ma plus grande phobie à moi a toujours été d'attraper le VIH. Alors, si je peux vous raconter, l'histoire commence en 2014. Alors en 2014, j'étais parti rendre visite à un ami. Je n'avais pas d'argent pour me faire coiffer. Comme il était en train de coiffer son petit frère, je lui avais proposé de me coiffer aussi. Mais on n'avait pas de lame de rasoir. On a utilisé la même lame de rasoir. Alors après cet épisode-là, ce jour-là, j'ai attrapé une très forte malaria. Et j'avais des signes, genre les signes de la primo-infection du VIH. J'ai vu mon médecin, il m'a rassuré, il a fait tous les examens, il m'a fait même un test VIH, il m'a dit que non, c'est de la malaria, de ne pas m'inquiéter. Mais malgré tout, j'ai continué quand même après à faire des tests VIH, dépistage tout le temps. Et cela a commencé en 2014 et ça a continué. Je me suis rendu compte que après, même dans mes rapports avec ma copine, une fois que j'embrasse même ma copine et après que j'ai de la fièvre ou je sens un malaise, même si on m'a déjà dit que c'est sans danger, mais quand même, je veux faire des tests VIH.
Alpha, pour bien comprendre, vous connaissez bien le mode de transmission du VIH. Vous avez parlé des baisers. On sait bien que ça ne se transmet pas par un baiser sur la bouche, par exemple. Mais malgré tout, vous avez peur, vous n'arrivez pas à vous raisonner, c'est bien ça?
Oui, oui, je connais tout le mode, mais quand, malgré tout, j'ai peur.
Et juste du VIH, juste de cette infection, par exemple la tuberculose, vous aviez une poussée de palu, vous n'étiez pas angoissé, c'est juste le VIH?
C'est juste le VIH.
C'est juste le VIH, d'accord.
Quand je me sens mal, je préfère que ça soit même autre chose que le VIH. Donc, je pense à la première chose à laquelle je pense, c'est le VIH.
Anne-Victoire Rousselet, on va distinguer, hein, quand on a peur d'une maladie précise, c'est pas être hypochondriaque, hein, c'est autre chose.
Oui, c'est la nosophobie, là. L'hypochondrie, c'est la maladie en général, alors que là, on est vraiment sur une maladie très spécifique. Alors, il y a sans doute plusieurs choses, hein, pour vous, Alpha. Hein. Il y a à la fois la question de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, il m'arrive un événement, je tombe malade, je cherche une raison, d'accord? Je cherche toujours une raison à ce qui m'arrive. Parfois, il n'y a pas de raison. Mais l'être humain, le cerveau humain n'aime pas ça. Et il a besoin de trouver une raison qui serait liée à son comportement. C'est un peu aussi la culpabilité, hein, judéo-chrétienne, hein, quand on observe quand même, j'ai dû faire quelque chose pour mériter ça. Il y a quand même quelque chose comme ça dans l'esprit humain. Alors qu'en réalité, les choses peuvent nous tomber dessus comme ça. Et puis après, il y a... En effet, la question de qu'est-ce que représente pour vous le VIH, le stigmate que ça peut représenter, parce que il y a plein de maladies, il y a des maladies qui sont tout aussi douloureuses, éprouvantes, invalidantes que le VIH, mais celle-ci est particulièrement stigmatisée et vecteur de quand même beaucoup de représentations et de jugements sociaux. Et donc il y a peut-être aussi ça derrière votre question aussi, de vous dire OK, si j'attrape ça, quelles vont être les conséquences pour moi socialement?
Alpha, vous diriez qu'aujourd'hui, cette peur du VIH, ça bloque un petit peu vos relations amoureuses?
Oui, ça bloque vraiment. Donc parfois, même quand j'embrasse ma copine, je prends tout un temps donc j'évite tout contact avec elle, en fait.
Et vous lui avez expliqué? Vous lui avez expliqué ou vous avez honte de votre comportement et vous préférez le taire?
Ah, j'ai honte, je n'arrive pas à expliquer.
Vous n'arrivez pas à lui dire.
J'avais un jour expliqué à un ami, il l'avait trouvé drôle. Du coup, à ma copine, je ne sais même pas par où commencer.
Anne-Victoire Rousselet, qu'est-ce qu'on peut dire à Alpha, justement, pour qu'il essaye de progresser, de sortir de cette impasse?
Je pense que Alpha, il est sur la bonne voie, c'est-à-dire que dans toutes les phobies, il faut s'exposer, d'accord? S'exposer à nos peurs, parce qu'en fait, on sait que la copine, vous la connaissez, vous savez comment, c'est une relation qui est construite, etc. Et vous savez, comme a dit Caroline, que dans les baisers, il n'y a pas de crainte, donc faut s'exposer à cette peur, c'est-à-dire faire les choses qu'on a envie de faire et attendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle exposition avec prévention de la réponse, d'accord? Je sais que je vais être anxieux, mais je sais que cette anxiété va descendre et je sais qu'il n'y aura pas cette conséquence. Rationnellement, je le sais. Donc, il faut que je me confronte et que j'ai ce temps, en fait, le temps de vous exposer à l'angoisse. L'angoisse va rester une vingtaine de minutes. Alors, vous allez me dire, c'est super long. Je sais que c'est super long quand on est anxieux, mais 20 minutes et après, elle va disparaître. Et après, vous allez pouvoir accéder à un raisonnement qui est plus rationnel. L'autre chose que je vous conseillerais, c'est moi d'en parler à votre copine en me disant tout simplement ce que vous nous avez dit là. J'ai honte, je suis pas à l'aise avec cette histoire-là, mais c'est important pour moi que tu saches. Et si vous lui dites comme ça, en lui disant bah, « je suis mal à l'aise de te raconter ça, mais j'ai besoin de te l'expliquer pour comprendre », je pense qu'elle va très bien comprendre. Si vous voulez, quand vous en parlez à des amis et que vous le racontez comme ça, peut-être en effet ils peuvent rigoler parce qu'ils sont mal à l'aise et ils savent pas trop quoi en faire et qu'ils savent pas ce que ça représente pour vous. Mais si vous dites que ça vous met mal à l'aise et que vous en avez honte, les gens ne vont pas rigoler.
Alpha, j'imagine que pour l'instant vous n'avez pas eu de relation sexuelle avec votre compagne.
Ah si, dernièrement j'avais une relation mais protégée.
Protégée. Et dans ces cas-là, ça vous angoisse ou vous y arrivez quand même?
Ça m'angoisse toujours quand même.
Et vous avez fait tous les deux les tests ensemble, de toute façon, parce que qu'on ait peur ou pas du VIH, c'est pas mal quand on s'engage dans une relation un petit peu au long cours, d'aller se faire dépister en couple, comme ça après on est plus tranquille.
Oui, oui, on a fait des tests ensemble, mais c'était négatif. Mais elle ne sait pas pourquoi, mais je lui avais juste menti pour lui dire, c'est juste pour voir si on est négatif. Mais elle ne sait pas que derrière, C'est une phobie pour moi.
Mais en même temps, vous avez envie de vous engager sur le long terme avec cette jeune fille?
Justement, justement, oui.
Eh bien, il faut rentrer dans une relation de confiance, j'imagine, hein, Anne-Victoire. Si Alpha veut justement construire quelque chose, il vaut mieux poser des bons jalons en étant dans la sincérité, en disant les choses. On arrive avec ses qualités, puis avec quelques petits défauts parfois aussi. Hein.
Bien sûr, et que vos vulnérabilités, ça va peut-être aussi elle la mettre à l'aise pour parler de ses propres vulnérabilités. Si vous ouvrez le champ en disant, tu sais, moi ça me gêne un peu, même moi je trouve ça un peu bizarre, mais en même temps, c'est une réalité. Ça me fait vraiment peur et ça va vous rassurer, vous apaiser de lui en parler. Je sais que c'est pas évident, d'autant plus quand on est un homme, de parler de ces troubles anxieux parce qu'ils sont encore plus signes de fragilité pour les hommes. Mais pour autant, ça peut aussi lui paraître très touchant que vous ouvriez là-dessus.
Voilà, Alpha. Merci beaucoup, hein. Et on salue tous nos auditeurs en République démocratique du Congo, Anne-Victoire Rousselet. On va vous retrouver dans quelques minutes après une petite pause musicale. Un titre, devrais-je dire, un classique Michael Jackson, Thriller 1982. On parle des phobies dans Priorité Santé sur RFI. On retrouve notre invitée Anne-Victoire Rousselet, psychologue, psychothérapeute au Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et toujours avec nous, bien sûr, les questions des auditrices et des auditeurs de l'émission. Et on repart pour la RDC avec en ligne de Matadi, Judith. Judith, bonjour.
Bonjour, bonjour Caroline et bonjour à tous les auditeurs des Priorités Santé.
Alors vous aussi, vous avez une phobie et peut-être même plusieurs phobies.
Oui.
Allez-y, expliquez-nous.
C'était que j'ai peur des souris. Mmh. En tout cas, j'ai très peur des souris, j'ai peur des grenouilles. Bon, ma question est de savoir, cette peur est apparue soudainement, parce qu'avant, je n'avais pas peur de ces bêtes-là. Mmh. Alors, je voulais demander qu'est-ce qui peut provoquer ce genre de phobie. Mmh. Et en plus de cela, j'ai peur de l'atterrissage ou du décollage de l'avion. Mmh. Alors, la première fois où j'ai pris l'avion, en tout cas, quand l'avion a commencé à décoller, j'avais très peur. J'avais même eu du mal à respirer. Mmh. Et je constate même que quand je monte l'ascenseur, ces mêmes peurs reviennent. Mmh. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'est le niveau d'oxygène qui change, c'est ce qui me provoque ces angoisses ou qu'est-ce qui peut expliquer cela?
Alors, deux phobies très différentes, hein, Judith. Vous disiez, c'est venu d'un coup la peur des animaux. Est-ce que c'est rattaché à un événement? Il s'est passé quelque chose ou pas?
Bon, avant, je n'avais pas peur des animaux. Quand j'étais enfant, je pouvais jouer avec une souris, je pouvais toucher une grenouille. Mais depuis un certain temps, c'est en grandissant que je commence à avoir très peur. Parce que quand je vois une souris, je risque même de ne pas... Je peux même pas dormir à l'aise dans une maison où j'ai trouvé une souris.
Alors, Anne-Victoire Rousselet, deux types différents, hein, vraiment, de phobies. Si on va d'abord sur cette peur des animaux, on l'a compris avec nos auditeurs, nos auditrices, c'est quelque chose de fréquent, d'ailleurs partout dans le monde. Hein, les souris, c'est un objet vraiment, on a l'image des personnes qui montent sur la table dans Gaston Lagaffe, Mademoiselle Jeanne qui pousse des cris stridents quand elle croise une souris dans le bureau de la rédaction de chez Dupuis. Enfin bref, ça c'est universel. Et l'autre phobie dont parlait justement Judith, les avions, les ascenseurs, là aussi c'est fréquent, comment ça s'explique ?
Alors c'est vrai que c'est pas les mêmes phobies, je pense que Judith a un terrain anxieux, ça c'est certain, qu'il faut en effet pouvoir s'exposer. On voit que ça grossit, c'est-à-dire que ça prend plus de place, il y a eu les petits animaux, après il y a l'ascenseur, l'avion. Dans l'avion, l'ascenseur, il y a la question du contrôle, hein. Question de pas pouvoir contrôler ce qui nous arrive parce qu'on fait confiance au pilote, on fait confiance à la technologie. Et parfois, il y a un petit peu ça chez certains anxieux qui ont peur de perdre le contrôle. Alors, l'oxygène n'est pas un souci ni dans l'avion, donc ça c'est important parce que je pense que si vous avez accès facilement à Internet, etc., ça vaut la peine de vous renseigner parce que une partie du traitement de ces phobies-là, c'est déjà avoir des informations sur comment marche l'avion, comment marche l'ascenseur, etc. Et ça, ça va déjà un petit peu vous rassurer.
Est-ce que vous pensez par exemple, excusez-moi Anne-Victoire, si jamais Judith rentre dans l'avion, elle explique précisément à l'hôtesse de l'air qu'elle souffre un petit peu de phobie et que ça pourrait éventuellement la mettre en confiance.
Bien sûr, parce que l'hôtesse de l'air va faire attention à vous, elle va venir vous amener de l'eau, elle va vous aider à respirer, etc. Donc oui, en effet, demander de l'aide dans ces cas-là, c'est pas évident parce que souvent on a honte de ses phobies, mais en même temps c'est déjà une bonne étape. Et puis après, je vois que vous parliez de l'oxygène. Alors en fait, c'est un phénomène anxieux et physique qui se passe, hein. C'est pas du tout, vous manquez pas d'air du tout. Si vous faites des tests de saturation, comme on fait beaucoup maintenant avec le Covid, etc., vous allez voir que vous avez une capacité respiratoire normale. En revanche, ce qui se passe, c'est que tous les anxieux bloquent leur air, d'accord ? Donc, ils bloquent l'air, donc ils ont comme une boule dans le ventre, là, hein, le diaphragme se serre, les abdominaux se resserrent, et après, ils respirent qu'avec l'eau, ils ont une respiration courte, comme ça. Et cette respiration courte, c'est ça qui nous crée le sentiment qu'on ne respire pas profondément et qu'on manque d'air, parce qu'on accélère, alors qu'en fait, il faudrait ralentir notre rythme de respiration. C'est pour vous expliquer ce qui se passe physiquement, et ça, vous pouvez retrouver le contrôle en respirant beaucoup plus calmement.
Alors, ces conseils, Judith, comment est-ce que vous voyez les choses, justement, pour essayer de vous débarrasser de ces phobies ?
Bon, en tout cas, moi, je pense que je dois beaucoup utiliser l'ascenseur et le faire moi-même, par exemple, parce que jusqu'à présent, je ne sais pas monter l'ascenseur seule. Je dois être toujours accompagnée et tenir sur la main de la personne qui m'accompagne. Donc, je dois essayer parce que je ne trouve pas normal, et surtout à mon âge, d'avoir peur de ces choses-là.
Faire des exercices de respiration avant, justement, d'aller dans l'ascenseur.
Oui.
Voilà, merci beaucoup, hein, merci beaucoup Judith pour votre appel. Alors on l'entend, hein, beaucoup de phobies qui concernent les animaux. On a aussi Boris au Tchad qui a une peur panique, hein, c'est l'expression qu'il emploie lui-même. Il l'a écrit dans son message Facebook, peur panique des serpents. Et on a un auditeur du Bénin, Adoboué, qui a laissé un message sur le répondeur de l'émission. On l'écoute tout de suite.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Priorité Santé RFI. Je suis Adoboué Akwe, j'ai 30 ans et j'appelle depuis Cotonou au Bénin. Depuis l'enfance, j'ai une peur bleue de tout ce qu'on appelle insectes, particulièrement des cafards et des araignées. Même le simple fait de voir un tas de fourmis quelque part me donne déjà un sursaut du cœur et le cœur se met à battre très rapidement. Il m'arrive même quand je vais à la douche, j'ai toujours tendance à regarder autour de moi, par terre, sur le mur, c'est pas s'il n'y a pas un petit truc quelque part qui pourrait me foutre une peur bleue. Le pire, c'est que quand j'ai même envie d'aller à la selle, si jamais je croise un cafard, alors je me retourne automatiquement. Et s'il faut revenir, c'est dans la résolution de le tuer. Et quand je n'arrive pas à le tuer, je m'arrange à ce qu'il fuit. Mais dans ces cas-là, Quelque chose me dit souvent dans la tête qu'il n'est pas bien loin, il peut toutefois revenir. Et là, je stresse, je regarde toujours à gauche et à droite. Voilà, c'est un peu le quotidien que je vis face aux insectes. Merci.
Et toujours dans un même ordre d'idées, hein, les insectes, on va tout de suite donner la parole à une auditrice en ligne du Congo, de Brazzaville. C'est vous, Enacha, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toute l'équipe de Pierrot Santé.
Alors racontez-nous, vous, l'objet de votre phobie, c'est quoi précisément?
En fait, depuis toute petite, j'ai toujours eu une peur des montres religieuses. Quand je vois une montre religieuse, l'image ne me quitte plus pendant plusieurs jours. Et j'ai l'impression d'en voir partout dans la maison. Et ça me met dans une condition de stress pendant des jours. Et j'ai trois questions à poser. La première est celle de savoir...
Et Nacha, est-ce que je peux m'interrompre deux secondes? Parce qu'effectivement, les mantes religieuses avec les pattes de devant, avec plein de piques et puis ses gros yeux, ça fait particulièrement peur, la posture aussi. Il y a beaucoup de mantes religieuses au Congo?
Oui, on a beaucoup.
Et chez vous, elles sont plutôt de couleur verte ou de couleur paille? Elles se voient de loin?
Elle est de couleur verte.
De couleur verte. Et est-ce qu'on s'est moqué de vous parce que vous aviez cette peur des mantes religieuses?
Oui, particulièrement mon entourage, ma famille, est informée de cette phobie-là. Et des fois, ils arrivent même à me faire des blagues dans ce sens. Et moi, ça me met vraiment dans une position très, très, très mal.
Des blagues, ça veut dire quoi? C'est qu'on vous met des mantes religieuses sous le nez?
Non, parfois dans ma chambre ou bien... Là où je suis assise, par exemple, je peux me déplacer et je remplace une montre religieuse dessus. Et là, vraiment, j'ai très peur.
Ça fait une crise de terreur. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai interrompu. Vos questions à Anne-Victoire Rousselet, si vous le voulez bien.
Oui, la première était de savoir, existe-t-il des méthodes pour s'en débarrasser? Et la deuxième question était de savoir si... cette phobie peut être innée parce que je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec les montres religieuses. Mais toute petite, déjà, j'ai eu cette phobie-là, donc je voudrais savoir si elle n'est pas innée. Et c'était les deux questions que j'avais apprises.
Anne-Victoire Rousselet, on comprend bien, une achat qui cherche à comprendre l'origine de cette peur. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Il n'y a pas besoin d'avoir eu un accident ou quelque chose de traumatisant. La vue de quelque chose qui est en plus un petit peu effrayant par son allure, ça peut pousser aussi. J'imagine que certains ont peur des chauves-souris, comme tout à l'heure on a entendu les rats. Ce sont pas des objets avec lesquels on a envie de vivre de près, quoi.
Non, déjà bien sûr, et puis c'est un objet, enfin c'est un objet qu'on connaît pas, qui peut être un peu mystérieux, on sait pas comment ça fonctionne quand on est enfant, déjà même quand on est adulte, c'est pas toujours évident. Mais donc il y a la couleur, il y a la forme, c'est un animal, un insecte que vous décrivez, qui est assez anguleux, qui peut peut-être paraître un peu dur, et puis ensuite c'est l'état dans lequel je suis lors de ma première rencontre. Ou de cette suggestion qu'on peut avoir. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le trouble anxieux, la phobie, c'est toujours une activation du corps, d'accord, à un moment, ou pas loin d'un moment, où on va être confronté à l'objet phobogène la première fois. D'accord? Si par exemple je cours pour attraper le métro, j'ai le cœur qui bat très vite, je transpire, et puis là je vois un rat, je suis surprise, et là je peux me dire, oh là là, mon état physiologique est associé à l'animal. Donc c'est peut-être ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire peut-être que vous couriez pour aller à l'école, ou pour aller voir votre maman, et puis là vous êtes tombé sur une mante religieuse et ça vous a surpris et vous avez associé l'activation physique physiologique que vous aviez à ce moment-là à l'animal. Donc ça peut être juste ça, cette confrontation à ce moment-là. Après, pour la question de comment on se traite, qui est importante, eh bien vous avez raison de la poser, et en fait c'est assez simple, c'est-à-dire que il y a cette technique de j'apprends à respirer, j'apprends à détendre mon corps par la respiration, par les étirements, par la relaxation, et ensuite je m'expose progressivement à mon objet phobogène. Je commence par la situation qui me fait le moins peur, qui peut être la mante religieuse en photo en noir et blanc par exemple, hein, avant même de passer à la photo couleur, et puis ensuite au petit film, au noir et blanc, couleur à son tour, etc., plus ou moins long, jusqu'à elle est à l'autre bout de la pièce dans une cage, et progressivement rapprocher jusqu'à ne plus en avoir peur quand elle est à un mètre. Il ne s'agit pas de la mettre dans votre assiette non plus. Hein.
Et on comprend bien, et on imagine votre réponse, Anne-Victoire Rousselet, le fait de faire des blagues en suggérant des phobies, en les suscitant, c'est vraiment quelque chose à éviter absolument, même si ça peut faire rire au premier abord. C'est complètement, non seulement c'est idiot, mais en plus, ça peut être vraiment préjudiciable pour la personne.
Bien sûr, et c'est particulièrement inhumain hein, quand on sait ce que c'est qu'une phobie. C'est une peur panique, c'est très douloureux, on a mal, en plus on peut avoir honte. Donc je pense que c'est important d'expliquer ça, parce que vous êtes plusieurs auditeurs à le redire, d'expliquer à vos proches à quel point c'est douloureux pour vous, pour qu'ils puissent vous épargner en tout cas ce genre de comportement. Oui.
Et Nacha, vous arriveriez à en parler justement en famille, dire vraiment c'est pas vraiment quelque chose dont on peut se moquer, parce que c'est pas facile pour moi, c'est pas drôle, vraiment c'est pas drôle, même si effectivement d'un premier abord ça peut faire sourire. Vous pourriez en parler à votre famille?
Bien sûr, je vais en parler.
Eh ben, on vous remercie infiniment, hein. On vous remercie infiniment pour votre témoignage. On vous remercie. Le temps passe très, très vite avec vous, Anne-Victoire Rousselet. Merci d'avoir répondu à notre invitation, à toutes ces questions d'auditeurs et d'auditrices. Il y en avait encore pas mal, en réserve. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute au Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris. On va se laisser en musique avant de retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon en musique avec Techno du Nigeria et ce titre Yawa.
I say, funny time, no be today. Me and you done the fighting, don't they? I no go pursue man, I go change my ways. I go reduce the banana, I no go do it again. If you leave me, now I go day. Sikope, baby. I no go play for a fool, Aje. No be a brave fool, Aje. This is how I used to do, Aje. Only you go chop belly fool, Aje. No be a brave fool, Aje. Cassava for two, Aje. Baby, all for you, Aje. Oh my baby, forgive me. I no go do it again. I don't get excuse. I body do kung fu. You know, say me no love be fine. She do me one by two, yeah. When you act the alcohol, now you my shaggy shaggy heart. My eye on the turn, I on the follow. Now she catch me. If you leave me, now I go there.
La nutrition et l'alimentation, c'est notre rendez-vous tout de suite dans Priorité Santé. Et c'est en votre compagnie. Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'avocat. Quels sont les bienfaits de sa consommation? Et pour démarrer cette chronique, on va commencer simplement par un petit exercice de présentation. Qui est l'avocat?
Alors l'avocat, c'est le fruit d'un arbre qu'on appelle l'avocatier, qui peut mesurer 10 à 20 mètres. C'est un grand arbre qui est originaire d'Amérique latine et principalement de deux pays, le Guatemala et le Mexique. Alors ce fruit est utilisé dans l'alimentation depuis plus de 10 000 ans, puisqu'on le retrouve déjà consommé par les Aztèques et les Mayas, donc c'est quelque chose qui est consommé depuis très longtemps. Aujourd'hui, en plus de son rôle dans l'alimentation humaine, on utilise aussi la pulpe du fruit pour préparer différents produits cosmétiques. Alors il s'est diffusé en Europe dès le 16e siècle, suite aux expéditions des Espagnols. Il a aussi été introduit aux Antilles, puis a progressivement gagné les tables un peu de tous les continents. Pendant plusieurs siècles, il a représenté un plat de luxe qui était réservé vraiment à la bourgeoisie, avant de se démocratiser, notamment grâce à la culture de masse venue des États-Unis. Alors, il existe trois grands groupes d'avocats, trois principaux groupes, l'avocat mexicain, l'avocat guatémaltèque, qu'on retrouve le plus, qui s'appelle As, et l'avocat antillais, qui est souvent appelé dans le commerce l'avocat de Floride. Alors, ces trois groupes se différencient par la forme, la taille et les propriétés du fruit.
Alors, du côté des caractéristiques nutritionnelles de ce fruit, l'avocat, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Alors, l'avocat est un fruit qui contient peu de glucides, c'est-à-dire peu de sucre, il contient peu de protéines, mais de bonne qualité. Et pour un fruit, la spécificité de l'avocat, c'est qu'il contient beaucoup de lipides, c'est ce qu'on appelle les graisses. C'est cet apport en graisse qui lui confère un apport calorique. On a souvent tendance à dire que l'avocat est très calorique, qui est estimé autour de 160 kcal pour 100 grammes. Alors, pour prendre une image, c'est plus que 100 grammes de riz cuit, donc c'est pas négligeable du tout. Il est cependant important de savoir que ces graisses sont majoritairement des graisses de bonne qualité, hein, avec des acides monoinsaturés comme l'acide oléique, polyinsaturés. Et il a aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va contenir, comme beaucoup de fruits, beaucoup de vitamines et de minéraux. Il est riche en vitamine B9, en vitamine B2, B5, en vitamine K, vitamine C et en vitamine E. Il contient du potassium, du magnésium, du cuivre et du manganèse. Alors il est important aussi de savoir qu'on parlait des graisses tout à l'heure, que la variété antillaise qu'on va de Floride contient deux fois moins de graisse que la variété As. Donc ça, c'est important aussi que l'avocat très gras dépend aussi de la variété.
Alors, du côté des bénéfices pour la santé et des risques, qu'est-ce qu'on joue justement en consommant de l'avocat ?
Alors d'abord, il y a des propriétés intéressantes. On va commencer par le positif pour la santé. Ben, la consommation d'avocats va participer aux apports en différentes vitamines et minéraux qui sont centrales dans le fonctionnement de notre organisme. On a parlé de la vitamine E, qui est un antioxydant très puissant, qui va permettre de protéger nos cellules contre l'effet des radicaux libres et du coup de certaines infections, de certains types de cancers ou de maladies cardiovasculaires. Il y a la quantité importante de fibres pour un fruit qui est intéressante, qui va participer à la régulation du transit. Et son apport en graisse, en bonne, ce qu'on appelle les bonnes graisses, monopolyinsaturé, va participer à la santé cardiovasculaire. Alors, il faut cependant faire attention à une chose, c'est qu'il contient beaucoup de vitamine K. Donc, les personnes qui sont sous anticoagulants doivent faire vraiment attention pour éviter une problématique de coagulation du sang.
Alors, par rapport à tous ces différents aspects, toutes ces caractéristiques, qu'est-ce que vous recommandez, oui, je vais parler correctement, par rapport à cette consommation d'avocat ?
Alors, en premier lieu, il faut rappeler que même s'il contient des bonnes graisses, c'est quand même des graisses et qu'il est très riche en graisses. Donc, moi, je recommande d'abord de faire attention aux quantités consommées. Je le déconseille en apéritif, comme il est souvent consommé, parce que ça va amener énormément de calories avant le repas et ça va faire un ensemble de repas très calorique. Pareil pour ce qui est des collations, je le déconseille en collation. Il y a beaucoup d'autres fruits qui sont pas très caloriques et qui vont amener des fibres, des vitamines et des minéraux. Après, pour les repas, c'est un excellent aliment. La recommandation aujourd'hui un peu générale, c'est de pas dépasser à cause de sa quantité de graisse 2 par jour, par semaine, pardon, excusez-moi,
ouais, par jour,
pas
ça vient
par jour, par semaine. mais là, moi, je donnerai quelques trucs pratiques. Déjà, s'il est préparé en salade, comme il est gras, d'éviter de mettre beaucoup d'huile, beaucoup de sauce, etc., de le faire très light.
Avec un simple filet de citron, ça peut être tout à fait excellent.
C'est parfait, ça évite l'effet graisse sur graisse. Et pareil, après, dans les plats, il faut être malin et l'incorporer dans des plats qui ne sont pas très caloriques et pas très gras. Tout son apport et son bienfait va être là. Après, le dernier petit truc, alors ça, c'est plus difficile parce que ce n'est pas partout qu'on peut trouver les variétés. Si l'endroit où on achète présente les variétés, bah, c'est plutôt d'aller vers l'avocat antillais qui va être moins gras, qui va permettre de bénéficier de toutes les propriétés de l'avocat en ayant moins de graisse par rapport à l'avocat As, par exemple, qui est beaucoup plus gras.
Alors, l'avocat antillais, si on parle de l'aspect, il est beaucoup plus gros, il a la peau plus lisse que les autres types d'avocats.
Oui, tout à fait. C'est celui-là qu'on peut voir dans le commerce par rapport à d'autres. Il y en a un qui a une forme un peu plus allongée et c'est effectivement celui qui est un peu plus gros qui est l'avocat de Floride.
Alors, on ne discute pas les goûts et les couleurs, mais c'est mon préféré. Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Elsa Oilaizola, Didier Bleu et Anthony Bellard. On se retrouve demain dès 9h10 temps universel.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sounou Assurance en Guinée. Sounou Assurance Vie Guinée qui vous protège ainsi que vos proches et Sounou Assurance IARD Guinée qui préserve vos biens. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Autour de la question.